Vous écoutez, on lit pour vous.
Des jeunes qui ont soif de spiritualité. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 5 mars 2024 dans Le Devoir. Depuis qu'une majorité de Québécois ont chassé la religion de leur vie, la spiritualité est devenue tabou au Québec. Pourtant, les questionnements sur le sens à donner à sa vie, à ses relations avec les autres, avec la nature, ou avec une force supérieure, continue d'exister. Mais contrairement à avant, les réponses ne sont plus toutes faites et ne se transmettent plus, tout bonnement, d'une génération à l'autre. Selon une récente étude menée auprès de 216 jeunes âgés de 20 à 35 ans par le Centre Saint-Pierre, situé à Montréal, en collaboration avec la chaire Jean Monbourquette de l'Université de Montréal, la spiritualité occupe une place importante chez les membres de cette génération qui ont toutefois redéfini leur spiritualité d'une manière plus personnelle, en marge des préceptes des institutions religieuses. Pour mieux comprendre comment ces jeunes vivent leur quête intérieure, Le Devoir a assisté à un atelier virtuel animé par Chantal Prévost, chercheuse et coordonnatrice du service de développement personnel et spirituel du Centre Saint-Pierre, avec 6 participants à l'étude. Ces 6 jeunes ont tous choisi un nom d'emprunt pour garantir la confidentialité de leur participation à l'enquête universitaire. Contexte social. Un des premiers aspects qui sont ressortis des entrevues avec les participants de l'étude est que le contexte social dans lequel vous êtes influence grandement votre expérience de la spiritualité, a souligné d'entrée de jeu Chantal Prévost. La planète s'enlise dans une crise climatique pendant que des scandales d'agressions sexuelles et des pratiques d'exclusion liées à l'homosexualité ou aux personnes trans ébranle les institutions religieuses. Ce contexte teinte votre expérience de la spiritualité. Un contexte qui résonne d'une multitude de façons auprès des jeunes et qui donne une couleur particulière à leur quête spirituelle. Pour Nabucodonosor, celle-ci est intimement liée à son désir de justice sociale. Pour moi, c'est être capable de prendre position pour les plus pauvres, pour les opprimés, pour les poqués. Cacao, elle, parle plutôt de symbiose. La spiritualité, c'est l'union avec la terre, la nature, l'univers et le cosmos, et d'être conscient que nous ne sommes qu'un. Quant à Marie, elle perçoit sa vie spirituelle comme étant indissociable de son militantisme politique. C'est ce qui me guide dans mes décisions, dans comment je vois le monde et comment j'interagis avec les autres. Pseudo-Nîmes, une personne trans, a présenté sa spiritualité comme étant un axe central de sa vie, mais qui cohabite avec d'autres éléments fondamentaux. Mon genre fait partie de mon identité et ma foi fait partie de mon identité. Il n'y a pas une partie qui est plus importante que l'autre. Elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Les expériences sont donc multiples. Et surtout, le désir de prendre soin de sa vie intérieure bien présent. J'ai soif de spiritualité, a lâché Marcelin, qui a déploré qu'en rejetant les institutions religieuses, les Québécois se soient aussi débarrassés de ce qu'il y avait à l'intérieur. Or, il faut séparer les institutions de la spiritualité ou de la foi, a fait valoir Moïse. L'institution représente la foi, mais elle n'est pas la foi. Les liens au lieu des institutions. Désormais, les relations humaines et les communautés qui en découlent sont les lieux privilégiés où les jeunes peuvent s'exprimer sur leur spiritualité. Une place qu'occupaient auparavant les institutions religieuses, a noté la chercheuse Chantal Prévost. c'est important de pouvoir vivre notre vie spirituelle avec d'autres gens qui peuvent la partager et la comprendre. Au bout du compte, la beauté de l'être humain, c'est sa capacité à entrer en relation avec l'autre, a souligné Nabucodonosor. Pour Marcelin, les mots « relation » et « amour » vont de pair. Dans la spiritualité, il faut avoir une relation avec soi, avec les autres, avec notre environnement et avec Dieu. Une vision des relations humaines que Marie a poussée encore plus loin. C'est vraiment important dans mes valeurs, dans ma cohérence interne, de prendre soin des autres, de créer des liens, d'être vulnérable avec les autres, de vivre des expériences avec les autres, a-t-elle dit. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois dans les gens. C'est ce qui me rend heureuse. C'est ça qui me fait avancer. Parfois, ces communautés sont clairement définies, comme pour Moïse, qui a participé aux Journées mondiales de la jeunesse organisées par l'Église catholique à Lisbonne l'été dernier. Je n'avais jamais vu ça. Autant d'amour, de paix, de joie. Croire sans communauté, c'est vraiment très abstrait. J'ai envie de dire que ça n'existe pas. Mais pour Cacao, qui ne s'identifie pas à un courant religieux ou spirituel en particulier, ces communautés sont plus fluides. « Je suis un être spirituel », résume-t-elle, en se disant ouverte à divers courants. « Je fais tout type de rituels, des rituels africains, autochtones. Je vais à l'église, des fois. Pour moi, c'est libre », explique-t-elle en indiquant avoir acquis le statut de « cérémonialiste qui transmet le savoir maya ». Pratiques multiples. En tout, une cinquantaine de pratiques ont été nommées par les 216 participants à l'étude sur la spiritualité, a souligné Chantal Prévost. Ces pratiques vont des rituels appartenant à un courant religieux précis à des démarches plus personnelles, comme avoir un petit temple chez soi, exercer un art ou un sport, ou encore faire des pratiques du soi, de plus en plus répandues, comme la méditation ou l'introspection. Le facteur commun de toutes ces pratiques, c'est le temps, a fait valoir Moïse. C'est de prendre un moment dans la journée ou dans la semaine pour s'arrêter, que ce soit pour prier ou pour danser. C'est de se donner du temps pour avoir une relation intérieure. La spiritualité, c'est donc peut-être simplement de s'octroyer une pause avec soi-même, peu importe la forme qu'elle prend ou la réflexion à laquelle elle mène. C'était « Des jeunes qui ont soif de spiritualité », un texte de Magdalene Boutros, paru le 5 mars 2024 dans Le Devoir.
Détruire des biens neufs à l'exacto, ça suffit. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 26 février 2024 dans La Presse. Une habituée des plongeons dans les conteneurs de magasins m'a transmis des photos de ses dernières chasses au trésor pour dénoncer une pratique immorale qui devrait être interdite depuis longtemps. Briser volontairement des biens flambant neufs avant de les jeter. Dans les derniers jours, elle a trouvé derrière un Winners 3 paires de bottes pour femmes, des chandails, un petit sac à main et 2 vestes, dont une de marque Penguin, vendue 169 $. Prix de détail d'origine de tout ça, environ 600 $. Chaque article avait été soigneusement coupé avant d'être mis aux poubelles. Il y avait de maudites belles bottes de cuir faites en Italie. Je les aurais portées si elles n'avaient pas été brisées. Elles ne présentent aucune usure, pas de scratch, déplore la professionnelle qui fait surtout le tour des poubelles pour redonner aux plus démunis. Grâce à des groupes sur les réseaux sociaux, elle trouve preneur pour les biens et la nourriture qu'elle sauve d'une fin désolante au dépotoir. Parfois, elle arrive à réparer ses trouvailles avec sa machine à coudre. À force de tomber sur des coups de lame, on développe des trucs. Puisque ses collègues de bureau ignorent tout de son singulier passe-temps. J'ai accepté de taire l'identité de cette femme que je connais depuis des années. Appelons-la Maud. Ça aurait pu être Robin des Bois écolo au grand cœur. Ses récentes trouvailles chez Winners sont choquantes, mais ce qu'elle a découvert au début de février l'était encore plus. Maud est tombée sur deux grands sacs blancs contenant plus de 40 sacs à dos de divers formats, des étuis à crayons et des boîtes à lunch pour enfants. Tout avait été coupé, sauf exception. Les effets scolaires affichaient la marque québécoise Keto, reconnue pour ses jolies illustrations. Ce n'était pas de la camelote. Les sacs à dos se vendaient plus de 40 $, les boîtes à lunch autour de 35 $. Qui a bien pu jeter tout ça? C'est là. Grande question. Le vaste assortiment a été trouvé derrière une succursale de l'aubainerie. Mais, vérification faite, la chaîne de magasins n'a jamais vendu cette marque, m'a dit son président et chef de la direction, Jean-Frédéric Pepin, tout en insistant sur le fait que les pratiques de gaspillage de vêtements sont totalement proscrites depuis fort longtemps dans son entreprise. Il a pris la chose assez au sérieux pour m'appeler un dimanche et déclencher une enquête sur le champ. Surprise! Les caméras de surveillance du magasin ont permis de découvrir comment les sacs Keto se sont retrouvés dans le conteneur, selon toute vraisemblance. Les bandes vidéo montrent un homme qui débarque d'une voiture avant de vérifier s'il est observé. Il se débarrasse ensuite de deux sacs blancs. Les images ont été captées en soirée, moins de 48 heures avant le passage de Maud. Autre détail intéressant. L'un des sacs contenait une étiquette de prix qui s'accroche aux tablettes de magasin. Grâce à la police de caractère, au numéro de modèle inscrit sur le carton et à une visite en magasin, la provenance était évidente. L'étiquette avait appartenu à Bureau en Gros, qui vend la marque Keto et possède une succursale à 1,1 km de l'aubainerie. Or, Bureau en Gros est catégorique. Une vérification des stocks démontre que les produits ne peuvent provenir de sa succursale. Aucune directive interne ordonnant de disposer des sacs n'a été émise. Ces produits sont donc d'ailleurs toujours disponibles à la vente. Le mystère des sacs altérés reste donc entier. Mais il n'en demeure pas moins offensant. Tout comme la liste des trouvailles de Maud depuis un an. Chaise de bureau lacérée. Accessoires pour les cheveux en parfait état, boîte de biscuits avec un coin écrasé, orange en quantité phénoménale. À vrai dire, je ne pensais plus que des détaillants auraient le culot de jeter en 2024 des produits qui pourraient faire le bonheur de bien du monde. À l'ère des réseaux sociaux, il n'en faut pas tant pour soulever les passions et amocher la réputation d'une entreprise qui n'agit pas en bonne citoyenne. On se rappellera aussi que l'émission JE à TVA avait filmé en 2016 des employés du groupe Garage Dynamite en train de jeter des centaines de vêtements neufs et lacérés. Un an plus tard, JE avait fait la tournée des conteneurs, ce qui lui avait permis de trouver des vêtements coupés par Winners à la demande du siège social et l'équipeur. Ces reportages, des plus néfastes pour les entreprises, n'ont-ils pas servi de leçon? C'est sans compter que le glanage urbain, appelé communément « dumpster diving », est désormais une activité connue. Des dizaines de reportages ont été publiés sur le sujet. Toutes les entreprises devraient savoir que leurs poubelles sont susceptibles d'être visitées en toute légalité. Et à l'ère des changements climatiques, on s'attend à ce que la conscience environnementale de certains commerçants soit plus aiguisée. Winners ne m'a pas expliqué pourquoi sa marchandise avait été coupée, mais cela irait à l'encontre de son protocole normal. Dans l'ensemble de nos magasins au Canada, nous nous associons à Habitat pour l'Humanité pour faire don des produits non endommagés et invendus aux personnes dans le besoin, et nos magasins ont reçu des instructions sur la manière dont ce processus fonctionne. Puisque la marchandise subit continuellement des baisses de prix jusqu'à trouver preneur. Seul un très faible pourcentage des marchandises reste invendu, a ajouté la porte-parole de l'entreprise. Certaines marques ne se retrouveront jamais dans les mains de ceux qui fouillent dans les conteneurs, mais pas pour les bonnes raisons. Elles préfèrent le feu à la lame acérée. La méthode a notamment été utilisée par Burberry, qui s'était déjà défendu en affirmant que la chaleur produite était récupérée, ce qui rendait le processus écologique. Faut le faire. La marque britannique s'est ensuite engagée à ne plus détruire ses invendus. Bref, c'est partout pareil. Si bien qu'il faut légiférer. En France, la loi anti-gaspillage interdit depuis 2022 aux industriels de détruire les invendus. Et en décembre, l'Union européenne s'est entendue pour prohiber la destruction de vêtements neufs. En attendant des lois similaires ici, on ne peut qu'espérer que les modes de ce monde feront évoluer les pratiques des entreprises avec leurs trouvailles dans les conteneurs. C'était « Détruire des biens neufs à l'exacto, ça suffit », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 26 février 2024 dans La Presse.
Mais pourquoi l'école? Le cri du cœur d'un prof qui n'en était pas un. Un texte de Marco Fortier, paru le 2 mars 2024 dans Le Devoir. Du jour au lendemain, en septembre 2019, Simon Bucci-Wheaton est devenu l'enseignant d'un groupe de sixième année. Sans aucune expérience auprès d'élèves, il répondait à l'appel d'un directeur d'école qui cherchait désespérément un titulaire de classe. Le choc a été brutal. L'apprenti a eu la piqûre pour la profession. Il s'est senti à sa place dans cette école d'un quartier défavorisé, mais il a vite constaté les lacunes du système dans lequel il embarquait. Jour après jour, il a consigné dans un cahier les petits et grands irritants de la vie d'un enseignant, que ses collègues, ayant plus d'ancienneté, ne voient plus ou préfèrent ignorer pour protéger leur santé mentale. Après 4 ans dans des écoles primaires, Simon Bucci-Wheaton avait accumulé tellement de notes qu'il a décidé d'en faire un livre. Ce recueil? Mais pourquoi l'école? Questions et réflexions d'un prof qui n'en était pas un. 17 personnalités exposent aussi leur vision du système d'éducation, dont Normand Baillargeon, Joshua Bengio, Yvon Rivard, Léa Streliski, Claudia Larochelle, Steve Bissonnette et d'autres. J'ai gardé la flamme pour le métier, mais la lune de miel a fini assez rapidement, résume l'auteur en entrevue. Il a entrepris des études à temps partiel, de soir, pour obtenir son brevet d'enseignement. Simon Bucci-Wheaton raconte dans son livre qu'il fait souvent trop chaud dans son local et qu'il n'y a pas de thermostat pour régler la température. Les fenêtres ouvertes en plein hiver, ce n'est pas juste pour ventiler la pièce en temps de pandémie, c'est aussi pour éviter de souffrir de la chaleur et pour évacuer les odeurs de repas parce que les élèves dînent en classe. Les moustiquaires laissent entrer les abeilles. L'eau potable contient du plomb. La recrue voit aussi la pénurie de personnel. Des collègues épuisés partent en congé de maladie. Des classes se retrouvent sans enseignants et des élèves en difficulté sont laissés à eux-mêmes, faute de soutien d'un orthopédagogue ou d'un technicien en éducation spécialisée. Les parents et les petits-tenants. La gestion de classe est l'une des principales difficultés. Si tu as 3 ou 4 élèves qui ont des problèmes de comportement, qui se lèvent n'importe quand ou qui dérangent les autres, peux-tu vraiment aider la petite qui a une dyslexie? À la fin de la journée, si tu ne peux pas aider tes élèves, tu ne te sens pas bon comme prof. Dit Simon Bucci-Wheaton. ce dernier a été étonné par le désintérêt d'une bonne partie des parents pour l'éducation de leurs enfants. Il a constaté que des parents ne faisaient aucun suivi à ces messages, les prévenant des lacunes importantes de leur enfant. Certains vont même blâmer l'enseignant s'il les informe du manque d'effort de leur enfant en classe. Les parents peuvent pourtant devenir un des principaux facteurs de réussite des élèves en s'alliant au personnel chargé de l'enseignement. Il n'y a pas de cadre à la maison. On abandonne les enfants un peu à eux-mêmes et on voit ce que ça donne en classe. Des difficultés d'apprentissage reliées à des troubles de comportement, dit l'enseignant. Il rêve d'un système scolaire qui mettrait la barre haut pour la réussite des élèves, qui inculquerait une culture de l'effort aux enfants et peut-être aux parents. Il est convaincu que la société devrait elle-même avoir des attentes pas mal plus élevées envers le réseau de l'éducation. La qualité du français des élèves et des enseignants eux-mêmes devrait inquiéter sérieusement l'ensemble de la société, selon lui. On fabrique des analphabètes fonctionnels, déplore Simon Bucci-Wheaton. Même à l'université, ils ont de la misère à écrire ou à comprendre un texte qui n'est pas compliqué. Il est urgent qu'on redresse la barre, sinon on va heurter un mur. Il croit que les enseignants de français au primaire devraient être des spécialistes de la langue, comme au secondaire. L'auteur s'étonne que les seuls spécialistes au primaire enseignent l'anglais, l'éducation physique ou les arts. Pourquoi pas le français? L'auteur propose d'autres solutions qui sortent des sentiers battus. Désigner deux directions par école, l'une qui supervise la pédagogie, l'autre qui gère le bâtiment et l'environnement de travail. Ou encore, dépolitiser le régime pédagogique qui serait confié à des experts en éducation. Il se réjouit de la création de l'Institut national d'excellence en éducation, annoncé par le gouvernement Legault. Vers une commission parents 2.0? En rédigeant son livre, Simon Bucci-Wheaton s'est demandé s'il chialait pour rien, s'il était trop négatif. Après tout, il y a aussi de belles histoires en éducation. Mais il a conclu, hors de tout doute, que ses constats étaient réalistes. Il estime que le système scolaire obtient à peine la note de passage. Les négociations conclues récemment entre Québec et les enseignants sont un pas dans la bonne direction, mais elles ne peuvent à elles seules régler les maux du réseau, selon lui. L'auteur est d'accord avec Normand Baillargeon, philosophe de l'éducation et chroniqueur au Devoir, qui signe la préface de son livre. 60 ans après la commission Parents, le Québec est mûr pour une nouvelle réflexion collective sur le système d'éducation. La dernière fois qu'on a réfléchi ensemble à ces questions, les profs fumaient dans les écoles et il n'y avait pas d'Internet. On doit se demander si notre école est encore au goût du jour et ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Sinon, c'est comme si on mettait un plâtre sur une fracture ouverte. C'était « Mais pourquoi l'école? » Le cri du cœur d'un prof qui n'en était pas un. Un texte de Marco Fortier, paru le 2 mars 2024 dans Le Devoir.
Qu'est-ce qu'un propriétaire peut demander à un futur locataire? Un texte de Zachary Goudreau, paru le 28 février 2024 dans Le Devoir. Les arnaques visant les locataires à la recherche d'un logement foisonnent sur le web. Or, même si les stratégies utilisées par les fraudeurs sont illégales, les recours dont disposent les Québécois floués sont limités. État des lieux en 4 questions clés. Peut-on exiger un dépôt pour la visite d'un logement? absolument pas, indique le porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, Martin Blanchard. Conformément à l'article 1904 du Code civil du Québec, le propriétaire peut uniquement exiger à un nouveau locataire le paiement du premier mois de loyer et ce, après la signature du bail. Le propriétaire encaisse ensuite le loyer le premier jour de chaque mois. Demander un dépôt en amont de la visite d'un logement est donc interdit par la loi, confirme l'avocat en droit du logement Manuel Johnson. Quels sont les renseignements personnels qu'un propriétaire peut exiger? Un propriétaire peut seulement réclamer certains renseignements de base nécessaires, notamment pour confirmer l'identité d'un futur locataire et réaliser une enquête de crédit. Pour ça, tout ce dont nous avons besoin, c'est le nom, l'adresse et la date de naissance, relève Manuel Johnson. Exiger d'un locataire potentiel qu'il fournisse son numéro d'assurance sociale ou encore les détails inscrits sur son passeport est interdit, poursuit l'avocat. Peut-on légalement encaisser un dépôt automatique en contournant la question de sécurité? Les fraudeurs qui réclament un dépôt avant la visite d'un logement tentent souvent de rassurer leurs victimes en affirmant que la somme réclamée ne sera déposée qu'au moment de la visite, lorsqu'elle leur fournira la réponse à la question de sécurité transmise. Or, il existe une astuce permettant au destinataire de toucher l'argent sans connaître la réponse de sécurité, soit l'activation de l'option dépôt automatique auprès d'Interac. Un des enjeux avec les virements Interac, c'est qu'il n'y a pas de protection légale, explique Alexandre Plourde, avocat et analyste chez Options Consommateurs. Il n'y a pas moyen d'annuler le virement Interac après le dépôt. C'est comme si on avait remis de l'argent comptant. Quels sont les recours pour les victimes? L'Association des banquiers canadiens recommande aux personnes victimes de fraude locative de communiquer avec le poste de police le plus proche. Or, les corps policiers accordent généralement peu de ressources à ce genre de crime, d'autant plus que les fraudeurs demeurent souvent à l'étranger. Les recours judiciaires contre ceux-ci sont par ailleurs limités. Les fraudeurs, ils disparaissent dans la brume. Bonne chance si tu veux effectuer une poursuite au civil contre ces gens-là. Laisse tomber Manuel Johnson. C'était « Qu'est-ce qu'un propriétaire peut demander à un futur locataire? » Un texte de Zachary Goudreau, paru le 28 février 2024 dans « Le Devoir ».